Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Médien. Bain de culture avec David Labo.
Bonjour, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un territoire au sud-ouest d'Oujda. Climat aride, la végétation se fait rare. Bienvenue à Gerada, au cœur de l'Oriental. Pendant des décennies, ce qui a fait la fortune de cette ville, c'est ses entrailles, son sous-sol gorgé de charbon. La mine ouvre au début des années 30. C'est là où l'on peut trouver du travail. Alors les gens affluent. À peine un millier d'habitants au départ, Gerada en comptera plus de 10 000 au début des années 50. Les années 80, plus de 60 000. Le travail des mineurs, le prolétariat, la conscience ouvrière, c'est à Gerada que va naître le premier syndicat au Maroc en 1946. Mais au tournant des années 80, le charbon fait moins recette, la demande ralentit, la production décline. 1998, le coup près tombe, fermeture des installations, le choc pour toute la région. L'exploitation va continuer par endroits, de façon précaire, informelle. Aujourd'hui, Gerada est toujours en quête de son avenir. Et si c'était ce patrimoine qui l'y aidait? Entretenir, conserver, magnifier cette histoire commune. Une bande dessinée est en cours de réalisation. Ces deux auteurs sont en résidence de création actuellement à Gerada avec l'Institut français. Pour les dessins, Éric Andrian, Tialounina. Et vous, Liliane Dos Santos, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui rédigez le scénario, l'histoire de cette bande dessinée. Quel est votre lien avec ce pan de l'histoire de l'Oriental? Pourquoi s'être intéressé à ce sujet?
Alors, c'est une histoire qui remonte à longtemps pour moi parce que j'ai fait un travail anthropologique depuis longtemps sur les friches industrielles et la mémoire ouvrière plus particulièrement. Et lorsqu'on évoque évidemment la question de la mémoire ouvrière, on évoque forcément la question des mineurs qui étaient au centre de toute la révolution industrielle et dans le monde entier, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment une histoire universelle autour de la mine, qu'elle soit bien sûr les mines de charbon et d'autres formes de mines, mais particulièrement, on le sait, la solidarité qui a uni les mineurs, les conditions de travail difficiles, la lutte syndicale, tout ça est une histoire finalement qui lie les hommes au-delà même de chaque pays. Et lorsque je suis arrivée au Maroc, puisque j'ai eu la chance d'être accueillie dans ce pays pendant 4 ans, j'ai rencontré l'histoire de Gerada. Je suis vraiment tombée admirative de cette histoire de Gerada, de l'histoire des mines, des rencontres très humaines que l'on fait ici.
Justement, vous êtes dans ce qu'on appelle une résidence artistique. Actuellement, vous travaillez sur ce projet. Vous continuez à vous documenter, à aller à la rencontre des gens, à récolter des témoignages.
On a eu la chance d'être accueillis avec le soutien de l'Agence de l'Oriental, l'Institut français d'Oujda et l'IRD, l'Institut de recherche et développement, qui ont tout de suite adhéré à ce projet et nous ont permis de séjourner pendant 8 jours ici à Gerada, là j'y suis bien sûr en ce moment même, et qui nous permet de compléter, d'affiner certaines questions et bien sûr de continuer ces rencontres et de travailler en direct sur la mémoire. Alors ça peut paraître un peu étrange de dire on travaille au présent sur quelque chose de passé, mais c'est vrai que c'est ça. On a la chance de pouvoir encore rencontrer des mineurs qui sont là et qui nous racontent leur histoire, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ont vécu parfois leurs parents d'ailleurs, et ce que vivent aussi leurs enfants. Et aujourd'hui, donc, tout ça est aussi inscrit dans un lien entre les générations.
Pour raconter la mine de Gerada, vous vous appuyez pour cette bande dessinée sur deux personnages que vous avez ciselés, que vous avez imaginés. Il y a Saïd Mohamed Zemoual, il est né à la fin des années 40, il va travailler dans la mine jusqu'à sa fermeture. Et puis il y a son fils Yassine qui lui travaille au même endroit mais après la fermeture, au moment où l'exploitation se fait de façon sauvage, de façon informelle.
Oui, c'est ça. En fait, on a pris deux personnages un peu emblématiques de l'histoire qui permettent de raconter finalement l'histoire de la mine, puisque le but, c'est de raconter en BD et en carnet de voyage, en quelque sorte, l'histoire des gueules noires de Gerada, puisque les mineurs étaient appelés les gueules noires, puisqu'ils sortaient de la mine toujours noires de poussière de charbon. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va prendre deux personnages, Donc, effectivement, le plus ancien qui va raconter son histoire, comment il est arrivé à Gerada avec son père. Et là, on refait l'histoire d'Emine. Et son fils, qui, bien sûr, parce que les mineurs, évidemment, espéraient des avenirs meilleurs pour leurs enfants, pouvait espérer que son fils poursuive des études et sorte dans une vie dont il avait projeté un Eldorado plus fort, quoi. Et son fils, les mines ayant fermé, se retrouve à être dans un puits artisanal et pour continuer à faire survivre sa famille. Et c'est l'image du fils qui, effectivement, se retrouve dans une situation professionnelle beaucoup plus difficile que finalement celle qu'a peut-être connue son père.
Liliane, il y a un photographe marocain qui a fait un très beau travail sur l'histoire de cette région. Je sais que vous connaissez son travail. Il s'appelle Mehdi Mariouche. Il a fait une série photo dans la mine abandonnée. Il est allé à la rencontre des mineurs qui continuaient à descendre sous terre après cette fermeture des installations pour continuer à gagner leur vie. Il en a fait également un petit film. Je vous propose d'écouter un extrait.
Je commence à travailler à 6 heures du matin. On commence par mouiller la terre sous un froid glacial. Le travail ne donne ses fruits que vers 9h, 10h du matin. Et si tu as une panne, ta journée est foutue. Il y a celui qui passe toute sa vie à trimer, il creuse toute la journée sans rien trouver, parfois il tombe sur de l'eau, sur un rocher, il peut passer toute sa vie à ne faire que ça. Finir sa journée sain et sauf, c'est un miracle. Dès le matin, j'arrive sur ma moto, les mains gelées. Une fois arrivé au boulot, tu peux avoir un accident grave, rien qu'en démarrant la machine. Moi, je me suis blessé à 7 reprises.
Liliane Dos Santos, on entend ce témoignage. Effectivement, ce qui rend cette histoire particulièrement forte, il y a une solidarité, il y a une aventure collective, mais tout cela, ça se fait dans des conditions de travail extrêmement, extrêmement difficiles et sous terre, qui plus est.
Mehdi Mariouche, je lui dois beaucoup parce que c'est lui le premier qui m'a montré ces images assez stupéfiantes et ça m'a beaucoup interpellée. Il fait un travail remarquable. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de son travail, de ses photos. Et effectivement, ce qui ne démord pas de malgré toutes ces difficultés, c'est la question de la solidarité. On voit bien qu'ils sont dans des situations difficiles, on le voit à Gerada. Gerada est une des villes les plus pauvres du Maroc, mais avec aussi une grande volonté de passer à autre chose, de faire évoluer cette société. En tout cas, Gerada était une ville qui était marquée par une seule économie, celle de la mine. La mine n'est plus là. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et on le voit d'ailleurs, on a visité cette semaine le puits 2 de Hassi Belal, où tout un complexe sportif est en train d'être mis en place à la place de cette friche industrielle qui est restée là, toute démolie. C'est vraiment une figure archéologique de la mine. Et on sent une volonté de faire évoluer la ville vers de nouveaux concepts économiques ou en tout cas une nouvelle dynamique. Et puis surtout la question des jeunes qui doivent continuer à vivre ici dans des situations sûrement économiquement difficiles et des questions d'emploi à retrouver. Donc il y a à la fois évidemment le passé où on est sur la mémoire des mineurs, cette solidarité, ces combats sociaux, l'histoire, et en même temps un renouveau, une renaissance de la ville, quelque chose qui cherche à se développer, qui se cherche encore, parce que je pense que ça va être un petit peu long, mais qui cherche des alternatives.
Et un processus de développement qui peut aussi s'appuyer justement sur ce patrimoine, sur ce passé, sur cette histoire. Je crois qu'il y a une volonté de valoriser ce passé. Il y a un projet de musée, même un projet de parc muséologique.
Oui, qu'on a pu aller visiter, donc les travaux sont toujours en cours, mais effectivement, on voit le musée de la mine, dans lequel seront certainement transférés un certain nombre d'objets qui parlent de la mine, de la mémoire, de l'histoire, et puis je crois qu'il y a l'idée d'un café, d'un pôle de ressources, l'idée peut-être d'un endroit où on peut être hébergé, aussi un hôtel ou une auberge, que sais-je, mais en tout cas, on sent autour de l'histoire la possibilité de développer un tourisme industriel en quelque sorte, quoi. Un tourisme lié à la mémoire de la mine. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que les jeunes peuvent se ressaisir de la question de leurs parents, de leur grand-père, de leur propre histoire et puis continuer à s'inscrire dans ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui, quoi.
De la même façon que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup en Europe, des friches industrielles reconverties pour créer de l'activité économique, souvent reconverties justement en espace culturel, en espace de création.
Oui, avec beaucoup d'expériences en ancienne Allemagne de l'Est, par exemple, où on a la Kulturbrauerei à Berlin, on a tout le site de la Ruhr, où on a de site en site tout un itinéraire qui peut être fait sur le patrimoine industriel. On connaît la mini-image autour des bassins houillers du nord de la France, ou sur d'autres terrains, sur les mines de sel, par exemple, dans le sud de la France également, les salins de Giraud. On est sur d'autres formes d'exploitation, bien sûr, on ne parle pas que du charbon, mais on voit bien toutes ces reconversions économiques nécessaires qui ont été menées et portées et qui fonctionnent et qui attirent un vrai public touristique intéressé, qui n'est pas seulement du tourisme de masse pour aller se faire bronzer au soleil, qui est un tourisme intéressé par des alternatives, une histoire. On parle beaucoup d'écotourisme aussi autour de l'écologie, de l'environnement, mais autour du patrimoine industriel, autour du patrimoine religieux, autour de... C'est-à-dire des... Je pense qu'on est sur un tourisme que je peux qualifier un peu de curieux, d'intelligent, qui permet d'explorer une part d'histoire d'un pays. Et ça, c'est quand même un tourisme, je trouve, particulièrement intéressant.
On est évidemment sur l'histoire avec un grand H. C'est une histoire qui transcende les frontières. Au-delà de cette histoire, il y a une mémoire commune, une mémoire partagée de part et d'autre de la Méditerranée.
Alors ça, c'est tout à fait étonnant parce que il y a eu beaucoup de, notamment à travers les syndicats hein, et les luttes syndicales, des revendications et des améliorations des conditions de travail communes. Il y avait une organisation internationale des syndicats avec des représentants qui disaient si ils ne vous aident pas à Gerada sur l'amélioration des conditions de travail, on fait des blocages au niveau international. Alors, possible, pas possible, est-ce qu'on est sur des faits un peu légendaires de cette histoire, de cette mémoire? Possible, hein, bien sûr. Mais ça prouve à quel point il y avait quelque chose de très fort, de solidaire et en commun au plan. C'est pour ça que je parle d'universalité souvent au plan international. Et on sait que, on sait très bien que les conditions de travail des mineurs étaient extrêmement difficiles. Je crois qu'ici, ils disent, on descendait dans l'enfer et chaque jour, quand on remontait, on renaissait. Donc il y a à la fois l'impression d'une petite mort et à la fois d'une renaissance permanente. Et je crois que ça, d'être englouti chaque fois dans les fonds de la terre, pour, il ne faut pas oublier que ce travail était fait pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, puisque derrière c'était le chauffage de tout le monde, c'était faire tourner les hammams, c'était faire accueillir dans les hôtels, c'était ça servait l'intérêt général. Donc il y avait une forme de combat ouvrier individuel, solidaire mais individuel. Le mineur de fond était un mineur qui travaillait le charbon de façon extrêmement pénible. Et il le faisait pour tous. Ce sens du travail difficile pour l'ensemble, finalement, du monde entier. On sait que le charbon était aussi exporté. On sait que il y avait une forme de connexion, qu'elle soit humaine, économique, commerciale, bien entendu, qui était internationale. Et bien sûr, aujourd'hui, il me semble tout à fait finalement normal que cette mémoire prennent une dimension culturelle, en quelque sorte, et que qu'on le voit à travers l'ouverture des musées de la mine, que cette mémoire ouvrière, effectivement, reste une mémoire collective.
Liliane, je vous propose d'écouter un extrait d'une chanson. Elle a été écrite il y a plus d'un siècle en Belgique. Elle s'appelle « Le vieux mineur » et elle décrit la dureté de cette vie dans la savoureuse langue wallonne.
C'est dans l'abîme qui du travail, elle ciel pour mes celles, toi delta, quand tout craque, il faut n'a peu, c'est le mestique qui vous qu'on s'expose. À bourrer le charbon au quartier, il vous rebira les yalpos. Vous, monsieur, les gros actionnaires, respectez tout d'il vieux, C'est les casquets, vos frises sur le terre, vos crèveries de foin, vos tables mouillées.
Alors, je vous avais prévenu, c'est du wallon, on est un peu perdu. Mais voilà, on comprend que cette femme, elle a beaucoup de choses à redire sur le travail de mineur. Liliane Dos Santos, en résidence de création pour cette bande dessinée. Quelles sont les prochaines étapes de votre travail ?
Alors là, l'avantage, c'est que bon, je travaille, il faut le dire, avec Doi, qui est un merveilleux carnetiste, bédéiste, dessinateur malgache, qui a travaillé beaucoup sur des carnets de voyage et qui fait du travail, qui fait du dessin de situation. Il se pose, qui dans la médina, devant les souks, devant une mosquée, devant et il fait devant les friches de Gerada, et il fait des dessins en direct en quelques. Oui, en quelques minutes, il travaille à l'aquarelle, il fait des dessins absolument merveilleux. Et donc, déjà ici, moi, je récupère la matière historique et la mémoire, comme on l'a dit dans cette interview. Et lui travaille beaucoup les dessins. Ensuite, la prochaine étape, c'est effectivement de poursuivre, d'ajuster autour de l'histoire, de compléter, de refaire encore des dessins. Et puis après, la démarche de l'éditeur qui... je dois dire que pour l'instant, on a lancé des perches et qu'on a quelques éditeurs qui sont très intéressés par cette idée. Donc nous, c'est formidable de pouvoir entendre une réaction positive chaque fois qu'on parle de ce projet, parce que évidemment, ça nous porte d'autant plus, ça nous met en confiance et ça nous oblige évidemment à répondre à l'attente de tous, du gardien que l'on rencontre de la friche industrielle, à Médien qui s'intéresse à notre projet par exemple aussi, et puis à l'Agence de l'Oriental, à l'Institut français et bien sûr à tous ces mineurs que l'on rencontre. Donc on espère voir aboutir ce projet, en tout cas dans les perspectives de premier semestre 2024, Inch'Allah.
Voilà, les Eldorado de Gerada, Histoire des gueules noires, ce projet de bande dessinée avec Eric Andrian Cialonina, son nom d'artiste c'est Doi, et vous, Liliane Dos Santos. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce dimanche pour Bain de Culture.
Merci beaucoup, Amédien, merci.
Il sera en concert le 23 juin prochain à Casablanca, dans le cadre de Jazzablanca. Un retour aux sources pour lui, puisque c'est là où il est né. Ismaël Santissi, extrait de son tout premier album Genoma. Le morceau s'appelle Aït Tamjout. Et puis, juste après, dans Bain de Culture, littérature, nous serons au Ciel de Rabat, qui bat son plein, c'est le premier week-end. L'Inataguide Médien nous y attend. Vous restez avec nous, Bain de Culture continue.
Médien, Bain de Culture, avec David Labo. Thank you.
par à Rabat maintenant. La capitale marocaine accueille cette année Le Ciel, le salon international de l'édition et du livre. Nous sommes en ligne avec Lina Tagui. Bonjour Lina.
Bonjour David, bonjour à tous.
Lina, vous êtes dans les allées du salon actuellement et clairement vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de monde autour de vous.
Oui, oui, David, en direct de l'espace OLM Swissy à Rabat pour cette donc 28e édition du Ciel. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de monde, David, ça grouille dans les rayonnages car nous sommes dans une véritable bibliothèque à ciel ouvert. Il y a ici plus de 700 exposants venus de 51 pays, des pays arabophones bien sûr. Le Maroc est présent, mais je suis aussi passée par le stand de l'Arabie Saoudite et du Qatar. L'Europe est présente, l'Institut espagnol Cervantes et l'Institut français ont évidemment une place, mais on peut aussi découvrir des maisons d'édition de ces deux pays.
Et l'invité d'honneur cette année, Lina, c'est le Québec.
Oui, oui, tout à fait. Je suis d'ailleurs en ce moment sur le stand du Québec avec Frédéric, qui est gestionnaire à l'exportation pour le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient, pour Québec Édition. Frédéric, pourquoi c'est important pour le Québec d'être représenté et surtout d'être mis à l'honneur lors de ce salon?
Alors, l'importance d'être représenté, c'est que la littérature québécoise, en général, elle rayonne, elle parle à une diversité, donc elle est accessible à tout le monde et d'être présente au Maroc, je pense que ça a un sens. Et le fait d'être invité à l'honneur, c'est vraiment le plaisir de pouvoir travailler sur la découvrabilité du livre québécois et de présenter à un plus grand lectorat ce que c'est la littérature québécoise et franco-canadienne.
Frédéric, est-ce que vous avez une recommandation pour nous?
Alors, une recommandation, peut-être on a Journal d'un bibliothécaire de survie de Charles Sagalan, publié à la Peuplade. Pourquoi je vous recommande ça? C'est que Charles a fait un projet d'installer des bibliothèques en forêt. Et donc, quand on marche, on a accès à une petite bibliothèque. Et en même temps, ça nous permet de découvrir le Québec parce qu'il est allé pour faire les descriptions et choisir les lieux. Il est allé voir des auteurs, des autrices qui sont spécialisées de cette région-là.
Frédéric, pour que je comprenne bien, les bibliothèques en sont installées au coin des bois, au milieu des bois, dans les forêts?
Oui, exactement. En fait, partout où ils marchaient, ils avaient envie de voir une bibliothèque. Et donc, les gens qui campaient la nuit peuvent ouvrir cette petite bibliothèque qui est un peu protégée, qui est en bois et qui est accessible à partir sur une petite île ou sur une colline où ils trouvaient que c'était justifié d'avoir un espace pour les livres, peu importe où on était.
Quand on fait du camping sauvage, quand on est sous la tente, on peut trouver de la lecture derrière le cèdre, derrière l'érable, pardon. On est au Canada et trouver éventuellement un livre. C'est une chouette idée.
Oui, exactement. Et en même temps, c'est des livres, c'est ça, comme je disais, des auteurs qui aiment cette région-là où on fait notre camping. Donc, c'est des livres qui nous parlent en même temps de la région.
Merci beaucoup, Frédéric. Vous me repassez, Lina?
Un plaisir. Oui, bien sûr. Alors, David, pour une amatrice de bouquins comme moi, c'est un peu le paradis, David. Mais même pour celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, eh bien, c'est une très, très belle porte d'entrée dans le monde de la lecture.
Lina Tagui, en direct avec nous du Ciel à Rabat. Merci beaucoup, Lina. Le Ciel, c'est donc jusqu'à dimanche dans l'espace OLM Swissy à Rabat. Merci, Lina.
Merci. Merci, David.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Bain de culture, c'est terminé pour ce dimanche. On se quitte en musique avec Sona Jobarté, chanteuse, musicienne, joueuse de kora, entre autres. Elle vient de Gambie et elle aussi sera en concert le jeudi 22 juin à Casablanca pour Jazzablanca. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.
Tefuta tajalia sobe mato ninte butu mama ke itele yatina teye ninjalia siluta kangfuta dinaruma.